Van Ham, mais ça commence à bien faire l'omniprésence des Belges là.
On dit Van Ham.
L'entre-soi dans cette émission, c'est pas possible quoi.
Salut Guillaume, ça va?
Ouais, comme un pays qui va être envahi là. Je me sens comme un Alsacien en 38.
C'est-à-dire?
Bah, on reçoit un Belge encore, et comme par hasard, il fait de la BD, c'est original.
Mais Guillaume, c'est quand même Jean Van Ham quoi.
Oui, en plus génial. Il vient pour un album sur les colonies belges.
Ah bah génial, après Tintin au Congo, c'est l'Argo Winch à Kinshasa.
Mais Guillaume, tu te rends pas compte, Jean Van Ham, c'est une légende en Belgique.
Ouais, bah en France aussi, on a des légendes, on a Johnny Hallyday, ça vous parle ça?
Et
Thorgal, que je t'invente une mythologie scandinave. Si c'est pour nous refaire le Seigneur des Anneaux, c'est bon, il y a déjà un mec qui a fait ça.
Mais t'es jaloux en fait, mais t'es juste jaloux qu'il n'existe pas un Français aussi talentueux.
Non. Voilà. Guillaume, ça te dit quelque chose, le Kivu?
Bah le Kivu, oui, c'est le jeu de société.
Enfin. Oh là là, quoi, c'est le thème de la BD de Jean Van Ham, c'est une province du Congo où les femmes se font violer et mutiler.
Oui, bon bah ça va.
Tu connais le docteur Mukwege, celui qui répare les femmes au Congo?
Mais si oui, c'est une sorte de docteur Hut, là, c'est comme docteur House, mais en Afrique.
Guillaume!
Non.
Oui, bah ça va, je connais pas.
Non, mais tu ferais bien de t'y intéresser. Mukwege, c'est un héros. Puis Jean Van Ham, il a décidé de raconter son histoire, tout simplement.
Ah, c'est pas vous qui feriez ça avec l'Algérie, Uderzo, il a pas fait Astérix et la Gégène.
Bon, attends, si je dis que je vous connais, je peux demander la nationalité?
Faudra apprendre le flamand.
Jean Van Ham, d'un début.
Bonjour la France Inter Libre. Vous écoutez la Startup Émission. Et voici les trois informations qui réussissent et qui vont croiser les blagues qui ne sont rien. Viktor Orban divise la droite française. Wauquiez trouve que l'autocrate hongrois a toute sa place au sein du PPE, le Parti Populaire Européen. Pécresse l'exclut car c'est l'extrême droite. Et Nadine Morano, elle fait un selfie avec lui. Ça va être chouette le PPE.
Il y a forcément une amicale d'anciens nazis ou une association.
La France vient de demander pardon à la veuve de Maurice Audin. Emmanuel Macron a reconnu la responsabilité de l'État dans la disparition du mathématicien communiste. Tiens, et ailleurs, comment ça se passe les excuses? Genre la Belgique avec le Congo.
Il n'y a pas d'excuses qui tiennent, c'est trop facile les excuses. Donc je vais aller parlez avec moi.
Maintenant que la BD est le secteur le plus florissant de l'édition, on croule sous les albums et on y trouve à boire et à manger. Et puis tout se décline en BD, les romans, les films, les émissions parfois. Même Neymar devient héros de BD, je peux dire, il garde un œil sur le rendu de son image.
C'est là que je me rends compte que malheureusement, je vous ai beaucoup moins bien réussi que le pauvre.
Lui, il a déjà fait de la radio, de la scène, du cinéma, donc certainement sans doute bientôt la BD.
On ne sait pas. Bonjour Charlie Donnacker, comment allez-vous?
Très bien, merci.
Eh bien oui, parce qu'il y a beaucoup de Belges autour de la table. Mais je vais vous présenter les Français qui restent. À 17h20, celui qui a le même coiffeur que Thorgal, c'est Thomas VDB, bonjour.
Absolument, bonjour Alex, bonjour à tous. Alors moi, ça fait quelques jours que Éric Zemmour nous a fait une belle sortie, donc je me suis retenu depuis 4-5 jours, aujourd'hui genre. Enfin pouvoir me lâcher, ça fait plaisir.
On est content de vous avoir sur ce sujet à 17h30, celui qui ne scénarise rien, puisque ce sont les gens qui lui racontent plus belles histoires, c'est Guillaume Meurice.
Oui, bonjour à tous, moi je suis allé devant des boucheries pour parler véganisme. Voilà, bonne ambiance. mais je m'attendais pas par contre à parler fellation.
La fellation, elle est bien végane.
Voilà, la fellation est végane, à bon entendeur. Service public aussi, à un moment donné.
Ça donne envie d'écouter ce sujet. Et à 17h40, celle qui n'aurait jamais pu avoir une relation avec l'Argo Winch, puisqu'il est brillant, riche et beau, c'est pas son genre. Bonjour Juliette Armand. J'ai lu votre livre, moi, madame.
Oui, bonjour chérie. De quoi est-ce que je parle aujourd'hui, Alex?
Oui, c'est troublé.
Je parle d'un nouveau genre de super-héros. Et figurez-vous que ce soit dans la fiction ou en réalité, ils sont en Afrique.
Très bien.
Et voici celui qui tient le rôle d'élément modificateur dans notre schéma narratif. Vous êtes, je vous laisse nous le dire, vous êtes...
Jean Van Ham, diphtongue ouverte.
Il le prononce bien, lui, ouais.
Diphtongue ouverte.
Et je n'aspire pas le H.
Charline Van Necker, Alex Vizorek.
C'est mauvais pour la santé.
Et vu comment les Belges sont en train de disrupter l'orthographe jusqu'en France, vous faites bien de le souligner. Bienvenue Jean Van Ham.
Je suis ravi d'être dans une émission qui s'appelle By Jove.
Eh oui, exactement. C'est vrai, la traduction anglaise.
Honneur à Blake et Mortimer.
Que vous avez aussi scénarisé récemment.
Et que je continue à scénariser.
Continue à scénariser.
Enfin, j'en ai encore écrit un. En promettant que ce sera le dernier.
Comme à chaque fois, vous nous faites
avec
le coup.
Avec le doigt dans le dos.
Jean Van Ham, vous êtes venu accompagné de Christophe Simon, qui est le dessinateur donc de ce nouvel album qui s'intitule « Qui vous ?», qui est paru aux éditions du Lombard. Jean Van Ham, c'est la première fois que vous acceptez une commande.
C'est exact.
Pourquoi ?
parce que j'ai trouvé le gars qui me l'a commandé très sympathique. C'est le docteur Guibert Cadière, Guy Bernard Cadière, qui va régulièrement dans un hôpital à Bukavu qui s'appelle Panzi, aider le docteur Mukwege, l'homme qui répare les femmes, parce que, et ceci n'a rien de drôle, il y a des bandes ravageuses de Rwandais génocidaires qui ont envahi le Kivu, qui chassent par la terreur les habitants du coin pour s'emparer de leurs terres qui recèlent des minerais extrêmement importants, notamment dans la fabrication de tout ce qui est électronique, vos tablettes, vos téléphones portables. Et comme a dit un anonyme, chaque fois que j'allume mon portable et on ne rit pas, il y a un enfant qui se fait violer au Kivu.
C'est le coltan.
Le coltan, qui est donc la colombite, rien à voir avec Christophe Colomb, la colombite et le tantalite. La colombite, qui s'appelle aussi le niobium, est très utile mêlé à l'acier, le rend plus léger et plus résistant. Donc ça, c'est pour la grosse industrie. Et la colombite, le tantal, est un matériau extrêmement conducteur et extrêmement non corrosible, donc pas de corrosion. Résultat, vos portables durent plus longtemps, mais en fait, ça sert à rien puisque tous les gamins changent de portable tous les 2 ans pour suivre la mode. Bon, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Ceci se fait avec la complicité des multinationales qui achètent ce coltan, non pas au Kivu, mais au Rwanda, le minerai passant subrepticement la frontière. Donc, ils achètent sans avoir du sang sur les mains. Donc, officiellement, ces multinationales ne savent pas qu'au Kivu, on s'égorge à bâton rompu, si je puis dire.
Ils le savent quand même.
Mais pas officiellement.
Officiellement, non, cher monsieur. Oui. Ils achètent au Rwanda, qui est propre, comme chacun sait.
Jean Van Hamme, vous mettez donc un éclairage sur cette barbarie au Kivu. Il y a des personnages avec une multinationale qui arrive là-bas avec un héros. Il y a le docteur Mukwege. On va discuter aussi avec Christophe Simon, le dessinateur, parce que la situation au Kivu, c'est vraiment la barbarie absolue. Alors par quel chemin, et je vous pose la question à tous les deux, au scénariste et au dessinateur, par quel chemin on emmène le lecteur sans l'effrayer?
Mais parce qu'on fait un reportage déguisé, si je puis dire. Je m'étais dit, si je fais simplement une histoire structurée qui raconte la création de Panzi, etc., ça risque de n'intéresser que peu de monde. Donc j'y ai ajouté une intrigue. Ce qui fait notre but étant une intrigue sur fond de vérité.
Donc avec un jeune ingénieur qui vient de Belgique.
Fictif, qui vient de Belgique, qui est le candide de service et qui, étant sur place, se fait dessiller les yeux en s'apercevant de ce qui se passe et qui ne veut pas, lui, être complice de cette ignominie. Et qui rencontre, et ceci aussi grâce à sa rencontre avec une jeune africaine de 12 ans, vis-à-vis de qui il éprouve une certaine amitié, affection.
Et justement, elle arrive très tôt dans cette bande dessinée. Christophe Simon, bonjour, vous êtes donc le dessinateur de Kivu. Je vous pose la même question, cette barbarie absolue, vous avez dû la dessiner. Et la bande dessinée s'ouvre sur le viol d'une jeune fille de 12 ans par un militaire.
Presque viol, elle ne se fait pas.
Oui, presque viol, mais il y a un dessin qui est assez explicite. Oui. On comprend qu'elle échappe de peu, mais c'est quand même très très cru. Comment est-ce qu'on dessine cette crudité et par rapport, par exemple, au cinéma et au cadre qu'on peut choisir dans le dessin, comment est-ce qu'on se débrouille avec ça?
La difficulté, c'est qu'il fallait arriver à mettre le lecteur mal à l'aise, mais sans tomber dans le glauque. Donc c'est vraiment sur le fil rouge, et il fallait pas tomber du mauvais côté.
Alors
mais en même temps, avoir des images assez fortes,
ouais,
pour qu'on comprenne bien de quoi il s'agissait.
Et le travail entre vous deux, justement, là-dessus, est-ce que c'est à un moment une frontière, Jean vous donne le texte et vous laisse quartier libre, ou après ça repasse, vous vous reposez les questions
Mais le scénario de Jean Van Hamme est déjà très précis, même au niveau des images, sur le genre de scène que Jean...
Je n'ai jamais laissé un dessinateur libre.
Ça va pas commencer maintenant.
Vous laissez pas faire, Christophe. Voilà, on va bien sûr revenir.
J'ai fait pire.
Vous avez dessiné vous-même ?
Non, on l'a envoyé sur place.
Ah, très bien.
Évidemment, oui. Oui, car c'est très, très détaillé, avec Kinshasa notamment, avec sa circulation.
Et moi, je suis resté lâchement.
J'allais dire, pas de chance, Jean, il est revenu.
Ah non, ça quand même. On a failli l'enlever, mais le Lombard n'était pas d'accord pour payer la rançon.
Et
donc
oui,
voilà, on a négocié autrement.
La bande dessinée s'appelle Kivu, on va bien sûr en reparler. C'est paru aux éditions du Lombard. C'est évidemment Jean Van Am avec nous et Christophe Simon. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h. No, I'm not good. Amy Winehouse sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Notre invité, Jean Van Am, accompagné de Christophe Simon, le dessinateur, pour ce dernier album en date, signé par vous deux, qui s'appelle Kivu, paru aux éditions du Lombard. Et pour vous entourer, Christophe et Jean.
Eh bien, il y a Juliette Arnaud, Guillaume Meurice et Thomas VDB qui parlera d'Éric Zemmour.
C'est vrai.
On est assez un petit peu impatients sur ce dossier.
Une petite tranche d'information.
Oui, ça, on est bien.
Appelle récemment. Le train.
Le journal de presque 17h17.
Ah, 17h17. Un moment de 5h15.
Et on commence par les titres.
Marine Le Pen doit se soumettre à une expertise psychiatrique. Elle dénonce cette procédure, pourtant légale, puisqu'elle avait diffusé les photos de l'État islamique sur Twitter en 2015.
Et oui, elle ne veut pas y aller. On peut la comprendre. Elle a trop peur du résultat de l'expertise.
Édouard Philippe annonce sur France Inter que 300 000 retraités seront exonérés de la hausse de la CSG en 2019 et 2020.
Oui, cette mesure pourrait peut-être convaincre Gérard Collomb de prendre sa retraite enfin.
Et les brèves.
Et tant que la justice ne m'aura pas ordonné de passer un examen psychiatrique, je continuerai les brèves.
Allez, on commence par Les Républicains.
Oui, le nombre d'adhérents de Les Républicains est en chute et en même temps avec la canicule cet été, c'était prévisible.
LR encore, Laurent Wauquiez a déclaré, je cite, « Viktor Orban a toute sa place au sein du Parti Populaire Européen ».
Oui, et d'ailleurs, pour être sûr qu'il ait toujours sa place, Wauquiez se pousse toujours un petit peu sur la droite pour qu'il puisse s'asseoir.
Plus à droite encore, oh oui. Marine Le Pen est invitée donc par la justice à se soumettre à une expertise psychiatrique pour ses tweets sur l'État islamique.
Et oui, il était temps, ça fait quand même un moment qu'elle voit des étrangers partout et il fallait vérifier ça.
On espère surtout pour elle que les experts invités à se pencher sur son cas ne tomberont pas là-dessus.
Ils sont dans les campagnes, dans les villes.
Je parlais de
ils
votre
sont
partie.
Sur les réseaux sociaux.
Oui, voilà, internement.
International. Donald Trump a déclaré que l'ouragan Florence était, je cite, « l'un des plus humides que nous ayons eu du point de vue de l'eau ».
Oui. Et lui-même est pas loin d'être l'un des plus stupides que nous ayons eu du point de vue de l'intelligence.
Économie. Oui. Audi provoque les moqueries en appelant son nouveau SUV Etron.
Alors évidemment, on est censé prononcer l'anglaise Etron, mais ça reste un bon nom de merde quand même, on va pas se mentir.
Allez, retour en France avec Pôle emploi qui propose à des chômeurs d'aller travailler en République tchèque.
Moi, un job, je traverse l'Allemagne et je vous en trouve un.
Une page santé avec l'ONG Foodwatch qui a révélé que des produits alimentaires contenaient, sans clairement l'afficher, des ingrédients dérivés d'animaux comme des yaourts à la gélatine de bœuf ou de la glace à la résine d'insectes.
Et oui, du coup, j'hésiterai vachement la prochaine fois qu'on me proposera d'accompagner mon café d'une langue de chat. Attention, évidemment.
Football, la France reste première du classement FIFA, mais à égalité avec la Belgique.
Ça vous dérange pas, je dirais plutôt la Belgique est première du classement FIFA à égalité avec la France. Hein. C'est pas que j'ai le seum, mais à un moment, c'est bon.
Football encore, le champion du monde Nabil Fekir, auteur d'une performance XXL hier soir.
Eh ouais, très très bon. C'est l'idole de Juliette. Un but, une passe décisive. Ouais. Le capitaine de l'OL a participé à l'exploit à battre Manchester City. Et donc, il est tombé sur un journaliste anglais à la sortie. Et il lui a demandé si c'était une revanche par rapport à ce transfert raté à Liverpool.
I won't prove, but I'm good player, but the most important is the group.
Et on comprend peut-être pourquoi le transfert à Liverpool a échoué.
And the Braves.
Son chauffeur Uber est complètement ivre. Il se conduit lui-même à bon port. C'est l'ubérisation de l'ubérisation. Et alors la question évidemment qui se pose, qui était le mieux noté ? On ne sait pas.
Allez, une dernière.
Et une dernière, Amiens, un chirurgien opère le mauvais genou d'un patient. Ouais. Heureusement que le médecin n'était pas proctologue.
Merci Alex.
Ça c'est visuel.
Jean Van Am est avec nous et le dessinateur Christophe Simon.
Ça, je vous dirai comment le dessiner la dernière fois parce qu'on ne peut pas le faire dans notre temps.
Allez, parlons un petit peu, le Parlement européen. Là, au Parlement européen, la droite est bien emmerdée avec le Hongrois Viktor Orban, le parti de l'homme qui ferme les journaux, qui écrase l'opposition. A-t-il sa place au sein du Parti populaire européen ? Alors, on a entendu dans le journal d'Alex, parce qu'il y a des vraies informations,
oui, parfois, que
Wauquiez
dit
oui, il a sa place. Valérie Pécresse dit non, il n'a pas sa place. Et Nadine Morano, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait un selfie avec Viktor Orban. Mais ça, c'est Nadine, ça.
Mais j'ai dans le cœur Nadine, sa meilleure amie est tchadienne, donc plus noire qu'une arabe. J'ai dans le cœur Nadine, qui me rappelle un petit peu une voiture Volkswagen.
C'est Frédéric Fromet, bien sûr, qui travaille avec nous cette semaine à la Blagounette et qu'on retrouvera vendredi en chanson, bien sûr. Oui. Alors, Viktor Orban, c'est le symptôme de l'Europe qui va quand même très très mal. L'homme qui divise l'Europe, et donc elle divise la droite française. Et on se disait, c'était l'occasion peut-être de parler avec vous, Jean Van Am. Quand on donne les exemples de dérives populistes en Europe, en tout cas ici en France, on prend assez peu l'exemple de la Belgique, où pourtant il y a des nationalistes au gouvernement. On voulait vous poser cette question. Est-ce que c'est parce que la NVA est plus fréquentable que les autres? Comment ça se passe? Comment est-ce qu'on expliquerait aux Français ce qui se passe en Belgique?
Pour utiliser un nouveau terme que j'ai appris aujourd'hui, je suis assez étronisé de devoir répondre à cette question.
Je vous expliquer le qui vous pouvez expliquer.
C'est bien. Je suis pas venu pour rien, c'est sûr. Mais la NVA, ça dépend si vous habitez à Anvers ou une autre ville. À Uccle, il y a peu de candidats.
À Bruxelles, donc.
Uccle, qui est donc une commune de Bruxelles où se réfugient la plupart des Français qui ne veulent pas contribuer à l'effort de guerre de la France. Il n'y a pas de candidat NVA. Bon, c'est déjà ça.
Pas encore.
Donc, je m'abstiens de sortir de ma commune. Donc, et je vais plus rarement à Anvers, quoi qu'il y ait de très beaux musées à Anvers.
Car le parti est né là, on peut dire.
Le parti est né là. Le patron de la NVA, qui veut dire la Nieuwe Vlaamse Alliance.
Nouvelle Alliance.
Comme vous le saviez, la Nouvelle Alliance flamande.
Bardewever,
qui a maigri de 70 kilos pour devenir bourgmestre-maire.
Et 70, 70.
Maître du bourg, bourgmestre, il faut tout leur apprendre. Oh,
ouais, ça fait 5 ans qu'on bosse.
C'est pour ça, on comptait sur vous, c'est pour ça.
Là, on suit.
bon, a l'air de gérer sa commune avec l'énergie qu'on lui connaît. La porte de sortie des migrants est largement ouverte.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Est-ce qu'il y a un traitement aussi différent? On voit bien en France et en Belgique. Est-ce que le traitement pour l'accueil des migrants est différent en Belgique avec les populistes par rapport à la France? Ou c'est un peu compliqué?
C'est toujours un peu compliqué.
Chez nous.
C'est toujours un peu compliqué. Oui, mais ailleurs aussi.
C'est vrai. Hein.
Mais enfin, chez nous, c'est compliqué parce qu'on a trois langues nationales. Donc, selon celle avec laquelle on s'exprime, on ne dit pas toujours la même chose. Ce qui est très pratique pour ceux qui ne connaissent pas le flamand, etc. Ce qui est mon cas, d'ailleurs. Hein. Sinds school had ik no de gelegenheid had Vlaams te spreken.
Ik weet het niet.
Alex comprend.
C'est du néerlandais.
Ah oui, d'accord.
Mais pas de facilité à parler flamand.
Non, d'accord.
Quelle était la question?
Non, mais moi j'en ai une du coup, parce que vous expliquez assez bien le phénomène politique. Est-ce que la politique en tant que telle pourrait vous inspirer, comme ça a été le cas avec Quai d'Orsay en France, qui était vraiment une BD complètement politique?
J'ai une idée de pièce de théâtre. J'en ai déjà écrite une, mais personne ne me répond, parce qu'on trouve que c'est trop cher et qu'il y a trop de personnages.
Je commence à connaître du monde dans le théâtre.
Oui, bon, et je me suis dit, au cas où on l'apprend, j'ai une autre idée... Ah. Qui ne demandera qu'une table, deux chaises et trois personnages, donc beaucoup bien meilleur marché, et qui traitera de la trahison au sein des cabinets ministériels. Mmh. J'ai de bonnes sources pour l'écrire.
Donc elle n'est pas écrite, mais elle est dans
ma tête. Non, elle n'est pas écrite, mais elle est dans, oui, dans ma tête.
Donc si un directeur de théâtre nous écoute, dans trois mois c'est bon, si vous y mettez.
Oui, trois mois, quatre mois.
Et puisqu'on parlait des populistes, etc., est-ce qu'il y a l'équivalent d'un Zemmour belge ou pas?
Je n'ai jamais lu les œuvres de Monsieur Zemmour.
Ah, c'est ça que vous allez bien.
Il n'y a pas d'équivalent.
Si non. Comment il s'appelle Visor?
Bon. En tout cas, si
je
vous
sais
n'avez
plus,
pas...
j'ai son nom sur le bout de la langue. Il est sorti de la même école que moi.
Bonjour, madame. Si vous n'avez pas lu les œuvres d'Éric Zemmour, il nous les impose malheureusement, car il est invité sur les plateaux de télévision. Voilà qui a inspiré un certain Vandenberg, Thomas, qu'on appelle Thomas VDB par simplicité en France.
Exactement. Écoutez. Un polémiste qui surgit hors de la nuit court vers l'extrême droite, oui il court. Ses éditos super réac, il les signe avec un stylo sur du papier. D'un Z qui veut dire Zemmour, Zemmour, Zemmour. Éric Zemmour est revenu du fin fond de la nuit et une fois de plus il nous a estomaqué. À chaque fois on croit qu'il pourra pas aller plus loin que la fois précédente et à chaque fois il se surpasse, à chaque fois il nous en met plein la vue. Alors ce sera rien bien sûr si par la même occasion il en mettait pas plein la gueule à d'autres. Parce que cette semaine donc Éric Zemmour a dit à la chroniqueuse Absatouci chez Thierry Ardisson que c'est une honte que sa mère l'ait appelé Absatou et qu'elle aurait dû l'appeler Corinne. Voilà, alors quand il dit ça, je ne sais pas si Éric Zemmour se rend compte de l'humiliation que ressentent ces pauvres personnes. Alors je parle pas seulement des Français avec un prénom d'origine étrangère, mais surtout à tous les hommes qui s'appellent Éric. J'aimerais qu'on ait quand même une pensée pour eux, hein. C'est quand même eux les premières victimes de cette histoire. Et puis en plus, pour faire sa démonstration foireuse, il aurait quand même pu prendre un autre prénom français un peu plus cool, quand même Corinne. Fallait-il bien qu'il choisisse un prénom de standardiste des années 70? Je ne sais pas, voilà. C'est vrai qu'il y a quand même plein de français, de prénoms français féminins cool, autres que Corinne. Je sais pas pourquoi je pense à Zizi Jean-Mère, donc par exemple Zizi, mais il y a plein d'autres prénoms qu'on aurait pu prendre. Voilà. En plus, le pire, c'est que selon Éric Zemmour, il faut avoir un prénom du calendrier des saints, sauf que Corinne, elle est pas dans le calendrier. Il n'y a pas eu de sainte Corinne qui a existé. Eh ouais! Alors, bon, j'avoue que je dis ça, je raconte un peu ça comme si je le savais déjà, mais en fait j'avoue que j'ai découvert ça hier sur internet, hein, avec la hargne du gars qui est content de trouver des arguments pour contrer Éric Zemmour. Alors je raconte pas ma joie quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de Sainte Corinne qui existait. J'étais là, alors Zemmour, hein, t'es mal mon pote, hein, hein. Il faut savoir que je suis un fin limier du net. Absatouci, il faut savoir qu'elle a posté un extrait de l'émission dans laquelle on voit Éric Zemmour lui dire c'est votre prénom qui a une insulte à la France, la France n'est pas une terre vierge, c'est un pays avec une histoire, avec un passé, les prénoms incarnent l'histoire de la France. C'est-à-dire que selon la logique d'Éric Zemmour, aux États-Unis, tout le monde devrait s'appeler Petit Cheval de Feu ou Scalp Flamboyant devant la Lune, hein, c'est vrai, ou même peut-être Bison Futé, qui est l'équivalent de Corinne en langage peau rouge.
Eh ben, en France, c'est pareil. Pour Éric Zemmour, Absat aussi, elle devrait s'appeler Corinne. Mais pourquoi il remonte pas dans des temps plus anciens? C'est ça, je comprends pas. Oui, pourquoi il aurait pas dit que sa mère, elle aurait dû l'appeler, par exemple, Hildegarde? Ah, bah ouais. Et pourquoi les garçons, ils s'appellent pas Vercingétorix? En vrai, pourquoi on s'appelle pas tous Crocs? C'est vrai, parce que je rappelle que monsieur et madame Magnon ont eu un enfant qui s'appelait Crocs. Mais non, pour Éric Zemmour, la référence ultime, c'est le couple qui s'appelle Michel et Corinne. Voilà. Pour lui, c'est les Adam et Ève. C'est vraiment les Français originels. Salut, c'est Michel et Corinne. Voilà. C'est Michel et Corinne. Il y a une Renault 25 qui vient de se garer dans la maison. Oh, mais ça doit être Michel et Corinne. Voilà. C'est vraiment le couple de Français référentiel pour Éric Zemmour. C'est fou parce qu'en fait, Éric Zemmour se rend compte qu'il est fou d'amour de l'idée qui se fait de la France, et ce vraiment dans tout son système de pensée médiévale. Hein, faut voir que pour entrer chez Éric Zemmour, il y a une sorte de pont-levis, et c'est ça son problème, je pense, à Éric Zemmour, c'est qu'il est fou amoureux de la France. C'est pour ça qu'en fait il déraille, parce que l'amour ça rend complètement aveugle, ça rend débile, il pète un câble. Moi je suis pareil quand je suis amoureux avec mes potes, je suis hyper relou, j'arrête pas de les saouler, ils sont là, arrête, et moi je suis là, oui, trop belle. Et ben Zemmour il est pareil, là, mais vous comprenez pas les gars, j'adore le Poitou-Charentes, je kiffe trop le Jura, il est trop amoureux de la France. Son problème. Moi j'aime bien la France, j'avoue, mais c'est comme le vélo, on va dire, c'est pas ma passion. Il y a des trucs dans le vélo que j'aime bien, il y a d'autres trucs que j'aime pas. Par exemple, j'aime bien l'air frais dans les descentes, j'aime bien les dérapages, mais j'aime pas les montées. Et ben la France c'est pareil, j'aime pas tout. J'aime bien la pâtisserie, j'aime bien les jolis paysages, mais par exemple, j'aime pas les gens qui parlent des jeunes issus de l'immigration. C'est vrai que si Zemmour il était logique, dans son amour de la France, il parlerait des jeunes issus de la colonisation. S'il était logique, cela dit. Mais du coup, je me demande, c'est vrai que est-ce qu'en tant que Français, on est vraiment obligé d'aimer la France autant que ça? Est-ce qu'on est obligé d'avoir une passion pour la France? C'est ça que je me dis, est-ce qu'on est obligé finalement d'être des fous de la France? Parce qu'il faut faire gaffe, franchement, avec l'amour du pays, faut pas oublier qu'en ce moment en France, il y a des gens qui dépensent 55 euros pour acheter des t-shirts avec écrit croquignolesque dessus à la boutique de l'Elysée. Alors c'est des cas beaucoup moins graves que lui, mais quand même. Alors je pose la question, où est-ce qu'elle est la bonne limite de l'amour de la France? En tout cas, on a eu le calendrier grégorien, on a eu le calendrier révolutionnaire, on est content, maintenant on va voir le calendrier zémourien.
Merci Thomas VDB.
Saint Thomas.
Oui, Saint Thomas VDB.
Magnifique. Bah oui, magnifique, on est avec Jean Van Am et le dessinateur Christophe Simon jusqu'à 18h par Jupiter. Magnifique.
Inter, il est 17h37 à Bruxelles et on va repartir vers le Kivu dans quelques instants avec un sujet sur la post-colonisation et puis la lecture par Juliette Arnaud de Kivu, paru aux éditions du Lombard, la bande dessinée de Jean Van Am et Christophe Simon, ils sont tous les deux avec nous. Et bien sûr, il y a Guillaume Meurice.
Oui, c'est vrai, je vais vous parler des véganes aujourd'hui. Vous flippez votre race, regarde le regard d'Alex. Il flippe, ça arrête, faut savoir qu'à qu'Alex, vous allez les défoncer. Hein.
Non, attendez, attendez, parce qu'il faut savoir qu'Alex, il est composé à 70% d'andouillettes.
C'est vrai. Les véganes, genre.
Ouais, des véganes végétariens, quoi, un petit peu upgradés, comme on dit. Ouais, c'est comme ça qu'on pourrait dire. Alors, les véganes font peur aujourd'hui. Il y en a même qui ont pété des vitrines de boucher. Donc, le comité de soutien des vitrines s'est dit, bien sûr, extrêmement choqué. Il a été rejoint par le groupe Touche pas à ma véranda. Enfin, il y a un hashtag Je suis vitrine. Carglass, bien sûr, déclaré solidaire. Et moi, vous le savez, ma formation initiale, c'est reporter de guerre. J'ai fait la campagne de François Fillon avec un micro France Inter. Donc, les mecs qui sont planqués en Syrie, en Afghanistan, ils me font bien rigoler. Alors, au péril de ma vie, je suis allé devant des boucheries ce matin et je vais vous expliquer pourquoi c'est important de continuer à exploiter des animaux pour les bouffer, entre autres. On commence avec ce qui ressemble vachement à un nutritionniste.
Quand on mange de ce que l'on a envie, on est en bonne santé. Hein, on ne doit pas manger contre nature. C'est quelque chose qui ne vous plaît pas. Donc tout est bon sur la terre.
Et si on a envie de manger que des rillettes.
Alors que des rillettes, vous mangez des rillettes.
Mais on est en bonne santé.
Dans les rillettes, et ah bah oui, automatiquement.
Voilà, alors c'est un nutritionniste en freelance.
Je me tue à vous le dire.
C'est vrai que son surnom dans le milieu, c'est triple pontage coronarien. Mais bon, si vous avez envie de suivre effectivement un régime dissocié à base de rillettes, vous faites ce que vous voulez. Je vous conseille d'y ajouter d'ailleurs des tripes et du sein doux. Ça fera le bonheur de vous et puis de vos héritiers dans 3 mois. On continue avec une autre bonne raison de continuer à défoncer les animaux.
Bon, on les tue pour... voilà, d'accord, mais bon, sinon, qu'est-ce que vous allez en faire aussi?
Parce que si on les tue pas, vous avez peur d'être envahi de vaches et de moutons.
Bah, écoutez, moi, manger de la viande, j'en mangerai toujours.
Hein. Mais non, mais il vaut mieux parce qu'on sait jamais, on craint le grand remplacement par les étrangers, mais c'est surtout des vaches qu'on devrait flipper. Il y a déjà des moutons dans les isoloirs. Regardez, on a fait un plan de sauvegarde des blaireaux. Ben, ils sont au pouvoir maintenant, c'est malin. Il faut faire gaffe. Alors, le problème, ce sont évidemment les conditions d'abattage qui posent quand même des questions à quelques consommateurs.
Quand on voit comment sont traitées les bêtes dans les abattoirs, c'est terrible. Par contre, de manger un poulet, ça me fait moins mal.
Bon. Alors un bœuf, non, mais un poulet, oui.
Bah oui, parce que un poulet, bon, qu'est-ce que vous voulez, c'est un poulet.
Ah ben un poulet, c'est un poulet.
Non mais lui le poulet, je sais pas s'il se voit souffrir quand il est tué.
Non, je pense pas. Sur le poulet, il pense qu'on va lui faire un massage. C'est pour ça qu'il est bien détendu. La viande de poulet,
c'est un bon coup sec. J'en ai parlé avec Maïté. C'est un bon coup sec. Toi, il voit rien.
Oui, c'est vrai. Quand il voit la lame, il se dit tiens, il va me faire le maillot, je pense. Alors, le poulet, il est content parce qu'il est assez coquet, le poulet, quand même. Alors, on peut trouver d'autres justifications, hein, et des mieux. Qu'est-ce que ce monsieur pense des véganes?
Les tarés.
C'est les tarés pour vous?
C'est complètement idiot.
Pourquoi alors?
C'est de l'ostracisme. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Je vous rappellerai à l'occasion que le cuir, ça vient de quel animal? La vache. Et la vache est un animal créé par le bon Dieu et que c'est l'homme qui est maître de la création.
Ah mais ça, j'avais pas pensé à ça.
Ah ben c'est important, mon ami. Hein,
mais on est sûr de ça, que c'est Dieu qui a créé
comment
les vaches?
Non, c'est pas sûr.
Non, mais attends, si, c'est parce qu'une fois j'avais lu un bouquin de Darwin, donc ça m'a un peu foutu le temps. Mais ça, c'était de la science-fiction, donc je m'excuse évidemment. C'est Dieu qui a créé les vaches pour qu'on les bouffe. Hein, c'est marqué dans l'Ancien Testament entre deux recettes de pâté en croûte. En revanche, pour tout ce qui est canapé en cuir, c'est l'autre bouquin, hein, c'est le catalogue Ikea. D'ailleurs, ce monsieur m'a raconté une histoire assez intéressante, vraie. Hein. Il a une maison en Normandie. Dit, et des vaches ont fait du bruit toute la nuit.
Parce qu'il y a des vaches qui étaient toutes malheureuses et qui ont passé leur nuit à pleurer. On leur avait enlevé leur petit veau.
Et ça vous a ému ou pas?
Ça me rappelle que dans la création, c'est logique. Dieu a fait toute la création et puis à la fin, il a créé l'homme. Et il lui a dit, tiens, je te donne l'autorité sur tout ce que j'ai créé, mais à condition de ne pas en abuser.
Faire pleurer des vaches, c'est pas abuser?
Non, c'est pas abuser, parce que c'est le veau, c'est le fruit de la vache, et que c'est logique que l'homme l'utilise.
Moi, je vois une logique là-dedans, hein, le veau est le fruit de la vache. Parce qu'il faut savoir, le « tu ne tueras point » dans la Bible, ça concerne pas tout le monde. Donc les animaux, déjà, non. Aux États-Unis, ça concerne pas les Noirs, par exemple. C'est assez technique, quand même, la Bible. Il y a différentes traductions. La Christine Boutin n'a pas la même Bible que Vincent McDoum. Par exemple, c'est une petite subtilité à savoir. Mais comme ce monsieur était quand même hyper bien renseigné, je me suis permis de rester un petit peu avec lui. Et je lui ai quand même demandé, est-ce que ce serait pas Dieu qui aurait aussi créé, du coup, bah, les végétariens?
Les végétariens, non, sûrement pas.
C'est pas Dieu qui les a créés?
Il a créé les légumes, les végétariens...
Mais qui a créé les végétariens alors?
Des cinglés.
Tout sur la terre n'a pas été créé par Dieu alors?
Si, terre a été créé par Dieu, mais c'est l'utilisation qui en est faite par les uns ou les autres qui quelquefois est tordue.
Oui, mais donc c'est bien Dieu qui a créé les végétariens.
Non!
Mais alors, ils se sont créés comment?
Bah, parce qu'ils ont réfléchi, et puis voilà.
Non, c'est parce qu'ils ont réfléchi.
Et voilà.
Et voilà, mais c'est ça le problème. S'il y a des gens qui réfléchissent, ça fout le bordel. Et il y en a de plus en plus de gens qui réfléchissent, et Dieu, il aime pas bien ça. Donc, si tu veux continuer à bouffer de la cervelle, ne développe pas trop la tienne.
Merci Guillaume Meurice.
De quel arrondissement
C'était marché des Batignolles, donc ça doit être le 17e, devant une énorme boucherie. Voilà, je fais de la pub pour la boucherie du marché des Batignolles, du coup.
Vous êtes sur France Inter, Jean Vanham est avec nous, ainsi que Christophe Simon, pour Qui vous, paru aux éditions du Lombard. Et on va parler, tiens, de l'État français qui a demandé pardon à la veuve de Maurice Audin. Le président de la République a présenté des excuses. Alors, combien d'États colonisateurs ont demandé pardon? De quelle manière? Tiens, la Belgique, par exemple, on a un Français et un Belge autour de la table. Comme invité, vous êtes bien Français, Christophe?
Non, je suis Belge.
Ah, c'est vrai? Ah, pardon, excusez-moi.
Sortez d'ici.
Ah ben c'est bien, vous allez vous nous expliquer à deux. La Belgique, par exemple, est-ce qu'elle a demandé pardon aux Congolais? Comment on demande pardon en belge d'abord?
Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. J'implore votre grande dame. Pardon, monsieur Manhattan. Je vous demande pardon. Continuez pendant une demi-heure.
Benoît Poulvord dans Monsieur Manhattan, bien sûr. Alors, vous allez deux à pouvoir expliquer, peut-être. Déjà, est-ce que la Belgique, elle s'est excusée d'une manière ou d'une autre envers le Congo ou pas?
En swahili ou en lingala?
Ah, d'accord. Oui.
C'est encore... Pour qu'ils comprennent,
oui,
quand si. Même. Ouais. Eh bien, à ma connaissance, non. Mm-hmm. Non. Parce que la Belgique continue à croire qu'elle a fait le plus grand bien au Congo en lui envoyant ses missionnaires, en lui apprenant, pas nos ancêtres nos Gaulois, les Gaulois, mais nos ancêtres les Flamands, et qu'elle leur a pris la position du missionnaire bien connu. Donc elle estime qu'elle a vraiment civilisé ce pays. Et puis tout à coup, très rapidement, on a vu que les voisins français, anglais, libéraient leurs colonies, les rendaient indépendantes. Ils ont dit, nous, on va faire comme les autres. On va, en vitesse, décoloniser. Ça s'est fait en deux temps, trois ronds de carottes. C'était mal foutu comme tout. On a commencé par assassiner, avec la complicité des Américains, celui qui avait été élu le Premier ministre, Lumumba, mm-hmm. bien sûr.
Et là, il y a eu des excuses, non?
Là, il y a eu quelques excuses discrètes.
Mmh. Discrètes. Oui, oui.
1961, oui, oui. Je crois.
Christophe oui, Simon.
Oui. Excuses discrètes et tardives, puisque c'est seulement ici, récemment, qu'on vient d'inaugurer à Bruxelles, dans le quartier de Matongé, donc un quartier à forte population congolaise, la place Lumumba.
Mm-hmm. Mais bon, c'est... Non, quand même, c'est une reconnaissance.
Et il y a une statue de Léopold II au milieu ou non? Parce que... Non, parce que... non, mais ça, c'était un vrai problème l'an dernier. C'est, on pense à déboulonner les statues de Léopold II, qui était le roi qui a fait la conquête du Congo.
Et il faudrait commencer par raconter rapidement l'histoire du Congo.
Faire, évidemment.
Vous êtes prêts?
Oui. On est prêts.
Ouais,
allez-y,
les auditeurs
Jean,
aussi.
Avec Christophe, allons-y.
Accrochez-vous. Bien. Un certain Dr Livingstone disparaît en Afrique centrale. Le patron de la presse américaine charge un Américain nationalisé anglais qui s'appelait Stanley, c'est pas son vrai nom, mais enfin on le connaît sous le nom de Stanley, de retrouver Livingstone. Donc Stanley part, engage une série de porteurs volontaires qui le suivent avec tous les paquets que l'on fait dans ce genre d'expédition, retrouve Livingstone, je sais plus très bien où, au bord d'une chute d'eau, et il lui dit « Dr Livingstone, I presume », ce qui veut dire, en bon français, « Dr Livingstone, je présume ». Tout le monde a compris.
Oui. Jusque-là, on est bon.
Et le Congo s'est créé comme ça. On a fait un cercle sur la carte pour marquer les frontières, en coupant à travers les ethnies, et le roi Léopold II, fils du roi Léopold Ier, comme d'habitude, a dit, comme il avait financé l'expédition de Stanley pour retrouver Livingstone. Bon, Livingstone, je ne sais pas ce qu'il est devenu après ça, on n'en parle plus.
Si tu croises Jean, tu le savais.
On n'en parle plus. Et donc, le roi Léopold II est devenu propriétaire à titre personnel d'un État grand comme combien de fois la France? Tap, 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 tap.
50.
8 fois.
Non, pas tant.
Qui dit mieux? Je sais pas.
Mais pas 50.
On parle du pays continent quand même.
Bon. Et donc c'était son jardin, c'était sa maison de campagne.
Oui, sauf qu'il n'y est jamais allé. Ouais. Sauf qu'il n'y est jamais allé. Et donc, hop, on est parti sous l'exploitation de l'ivoire, pour commencer, du café pour continuer, et de tas d'autres trucs en saignant ce pays assez convenablement. Avec cet argent qu'il gagnait, notre grand roi Léopold, qui s'est surnommé lui-même un géant dans un entresol, c'est-à-dire combien il appréciait ses sujets belges, il a fait l'arc du cinquantenaire, pour marquer le 50e anniversaire de la Belgique. Il a fait... Qu'est-ce qu'il a fait d'autre ?
Le palais des colonies, là, c'était lui, ça.
Hein, le musée colonial, oui. À Tervuren.
Un musée colonial. Voilà.
Bon, donc il a fait des choses. Et puis, sentant sa mort prochaine, il a dit, je vais donner mon jardin congolais à la Belgique. Bouh ! Se sont dit les députés belges. Est-ce un cadeau ? Vraiment ? Donc on va devoir y envoyer des fonctionnaires, ça va coûter cher, etc. Donc ils ont renaclé, et puis finalement ils ont accepté. Donc la Belgique est devenue officiellement une colonie belge en 1909, quand il est mort. Bon, après il y a eu la Première Guerre mondiale, on a amené quelques Congolais, on leur a mis un casque sur la tête et on les a mis dans une tranchée, mais enfin les Français ont fait exactement pareil. Mm-hmm. Donc on n'a pas à rougir de ça.
Enfin, et si, quand même.
On va rougir ensemble.
Mais résultat, il y a Lukaku qui marque des buts, hein, avec tout ça.
Ne confondons pas les fameuses valeurs républicaines avec les valeurs royalistes. Elles sont totalement différentes.
Concluons, Jean, comme ça ensuite on peut repartir sur Au Kivu.
Oui. Bon, alors on a divisé ce pays en différentes provinces, dont le fameux Kivu, qui est tout à l'est du Congo, et qui était un merveilleux pays agricole, etc., etc., jusqu'à ce que... Bon, indépendance en 1960, pour faire comme tout le monde, assassinat de Lumumba, Mobutu, qui était un petit sergent de la garde civique, s'est nommé maréchal, et vous connaissez le reste de l'histoire.
Très bien. Et justement, elle va nous conduire. Jean Van Am, merci pour ce rafraîchissement de l'histoire.
Vous racontez bien, vous devriez être scénariste. Ou...
Jean Van Am raconte. Et donc, cette bande dessinée avec Christophe Simon qui est avec nous. Jean Van Am, Juliette Arnoux.
Parfois, il y a des cartons de box-office qui sont de bonnes nouvelles. Pas seulement pour le ou les producteurs, pour nous tous. Et c'est le cas du film Black Panther en 2018. Alors, vous allez me dire, pourquoi se réjouir qu'un énième film de super-héros soit un énième succès ? Parce que dans Black Panther, là, les acteurs sont pratiquement tous noirs. Ici, l'action se déroule en Afrique. Ici, le héros de Black Panther s'appelle T'Challa. C'est lui, la panthère noire. C'est le prince héritier d'un royaume imaginaire d'Afrique centrale, appelé le Wakanda, à la fois sublime de beauté naturelle et au top de la technologie, parce qu'au Wakanda pullulent des mines de vibranium. Ah, le vibranium. Alors c'est un métal, de fiction bien sûr, qui absorbe les vibrations si bien que sans lui, pas de bouclier de Captain America. Et qu'est-ce qu'un monde sans Captain America, hein ? Qu'est-ce que c'est ? Eh ben, c'est pas grand-chose. Voilà, ça c'était la fin de la bonne nouvelle. J'espère que vous en avez tous bien profité. Dans la vraie vie de notre monde, sans super-héros, hein, blanc ou noir, il y a un endroit qui ressemble drôlement, si drôlement au Wakanda que l'ironie de la vie en devient douloureuse. Il s'agit du Kivu. Mon père qui y a vécu disait « Le Kivu, c'est beau comme si le monde venait de naître ». Et pourtant, si un écrivain des Lumières du 18e racontait l'histoire du Kivu, il en ferait une fable et il l'intitulerait « Le Kivu ou le malheur d'être bien né ». Le malheur du Kivu, c'est que son sous-sol regorge, entre autres, d'un truc, un minerai, grisâtre, marronasse, j'ai regardé sur internet, rien à signaler en termes de beauté, on dirait une crotte, ça s'appelle le coltan. Ah, le coltan ! Qui n'absorbe pas les vibrations, hein, lui. Et c'est pour ça que Captain America n'existe pas pour de vrai. En revanche, le coltan est absolument nécessaire pour...
Les téléphoner portables.
Quoi ? Ça a l'air moins cool ? Ça a l'air moins héroïque ? Mais enfin, les enfants, soyez pas abrutis. Ayez conscience que grâce au coltan, nous pouvons téléphoner dans le train ! Nous pouvons poster sur Insta des photos de nos enfants, de nos chats, de nos sunsets et autres ratatouilles au choucal. Nous pouvons nous insulter en toute impunité sur Twitter en mettant nos surmois à la poubelle. C'est pas rien quand même. Kivu, la BD, est donc, selon moi, d'utilité publique. on ne peut pas hausser les épaules en marmonnant « Ouais, enfin bon, moi je suis pas concerné, moi j'y peux rien, qu'est-ce que je peux faire, je sais pas quoi faire ». Eh ben, pour commencer, ce que tu peux faire, c'est ouvrir tes petits yeux, lire cette BD, apprendre sans austérité, puisque telle semble être la volonté de la BD. Ou même si ses personnages principaux sont des créatures de fiction, David, Peter, Violette, Jérémy, on a les deux pieds, les deux mains dans le cambouis de la vraie vie. Et il y a aussi un nouveau genre de super-héros, sans bouclier, sans petit marteau, bisous Thor, mais avec du courage et de l'espoir chevillé au corps, parce que pour les Congolais, le pessimisme est un luxe qu'ils ne peuvent pas s'offrir. Des toubibs, gynécologues et chirurgiens, un noir, Denis Mukwege, et un blanc, Guy Bernard Cadière, des êtres humains qui réparent des femmes, qui, comme souvent, les femmes, sont le dernier maillon de la chaîne alimentaire, encore plus dans cette guerre perpétuelle pour posséder un maximum de téléphones portables. Alors on commence par lire, et ensuite, sait-on jamais, je sais pas, on regarde son téléphone avec moins de dévotion, et puis je sais pas, on cherche. Merci, bisous, merci.
Juliette Arnaud, merci beaucoup pour cette lecture de Kivu,
donc les applaudissements
paru aux éditions du Lombard, qu'on vous conseille chaleureusement d'ailleurs, où on, voilà, on comprend la brutalité des choses, on comprend les enjeux, et il y a aussi un hommage à ces médecins et au docteur Mukwege, qui est une sommité mondiale et qui est donc le docteur qui répare les femmes, tout ça avec de magnifiques dessins. Et vraiment, c'est une BD fantastique, hein, le long édition du Lombard, Kivu, Jean Van Am, Christophe Simon. On va vous proposer, avant peut-être de reparler BD si on a un petit peu de temps, on va vous proposer un sketch. Jean Van Am.
On fait dans l'autre sens aujourd'hui.
Non, c'est parce qu'on est à...
Bon, très bien. Parce qu'on a pris... Eh ben, je termine de surligner.
Pendant que vous soulignez, je vais poser une petite question. On a malheureusement pas le temps de s'étendre sur le troisième sujet, sur le fait qu'il y ait énormément de BD, que ce soit un secteur vraiment très très florissant. Vous qui êtes dans la BD depuis très très longtemps, cette explosion...
C'est ça, vieillissez, moi.
Elle a dit très longtemps, elle n'a pas dit combien de temps.
Elle a dit très très longtemps.
Ah oui, c'est vrai qu'elle a dit
très de trop.
Mais non, vous êtes le pape.
Quasiment l'inventeur de la BD.
Vous êtes le pape de la BD. Alors je voulais avoir votre le regard pape. Sur.
Innocent.
Ça vous premier. Va bien. Ça vous va bien, le pape de la BD, je trouve. Et Christophe Simon aussi sur ce secteur extrêmement florissant où aujourd'hui même Neymar a sa BD et aujourd'hui même des émissions de télé sont déclinées en bande dessinée où il y a rarement maintenant un classique, un roman qui ne soit pas décliné et puis en film et puis en BD et puis peut-être en appli. Quel regard vous avez là-dessus?
Ben, que si on décline des romans, si on décline des histoires vraies, c'est que les auteurs commencent à manquer d'imagination. Et d'autre part, on est sorti, depuis des années d'ailleurs, du classique format 44-46 pages. Maintenant, c'est 300 pages, 400 pages, oui. Jusqu'à 900 pages.
Roman graphique, j'appelle ça.
Oui, on appelle ça roman graphique parce que ça a la taille d'un roman qu'on peut glisser dans la bibliothèque au milieu de ses romans. Roman graphique, ça fait plus chic.
Oui, ça fait plus chic. Hein? Christophe Et... Simon, vous êtes d'accord avec ça? Oui, là, de toute façon, on ne contredit pas Jean Van Am. Ça, c'est...
De toute façon.
Ça, de toute façon, déjà. Ça, on ne peut pas. Non, parce que c'est le pape de la BD, on l'a dit.
Ah oui, 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 le pape est universel.
Jean, prenez Van Am avec nous.
J'ai surligné le sketch, madame.
Ah, donc, c'est bien.
On peut y aller.
Non, oui, c'est vous n'êtes bon. Pas trompé en surlignant.
Ne te laisse pas faire, Christophe. On t'a posé une question, réponds.
Donc, tu es d'accord
oui. Par rapport à la situation de la BD actuellement.
Oui.
Mais déjà, bon... J'espère ne pas être trop vieux. Et quand j'ai commencé, on était, il y avait 800 BD qui sortaient par an. Maintenant, il y en a 5000, donc ça.
Ah ouais.
Ça fait un peu flipper parce que bon, forcément, la BD c'est une vocation, c'est un peu comme entrer dans les ordres.
Ouais.
Sauf que là, la chasteté, tout ça, non. Mais le premier vœu à faire, c'est le vœu de pauvreté. Mmh. Et avec cette surproduction, évidemment, c'est pas prêt de s'arranger.
Et c'est plus difficile de sortir du lot. Alors allons-y.
Alors évidemment, qu'est-ce qu'on va mettre en sketch aujourd'hui? La demande d'expertise psychiatrique de Marine Le Pen. Vous êtes le psychiatre Jean Van Am, Charline Vanhoenacker et Marine Le Pen.
Oui.
On voit comment ça pourrait se passer.
Non mais une expertise psychiatrique, puis quoi encore? Un internement d'office?
Bonjour, Madame Le Pen, si j'ai bien compris, ce sont les juges qui vous envoient vers moi?
Oui, ils sont là, dans nos villes, dans nos campagnes, sur les réseaux sociaux.
Non, non, nous sommes seuls, vous pouvez vous détendre.
Ouais, bah le Rassemblement
National... Sur le
divan. Le Rassemblement National à deux, ça part plutôt mal. Hein.
On va procéder à un test. Je vous montre une tâche et vous me dites ce que vous voyez.
Un migrant.
D'accord, et ici?
Un migrant.
Ah, et là?
Bah encore un migrant, des millions de migrants.
Je vois. Et là, un migrant aussi, Shimashi.
Hein? Ah non, pas du tout. Là, comme tout le monde, je vois un gros pâté dessiné par ma petite nièce.
Parlez-moi plutôt de la relation avec votre papa.
Oh, le salaud, son chien a bouffé ma chatte.
Ouh là là, jusqu'au bout, c'est encore douloureux.
Ah, si vous saviez, j'ai mon petit cœur qui souffre.
Oh, oui, je sais, c'est la création du monde. Après expliquez-moi précisément ce que vous ressentez.
Eh ben, parfois, j'ai le sentiment d'être là et en même temps de ne pas être là.
Ça, c'est embêtant, ça. Et où cela vous arrive-t-il?
Au Parlement européen.
J'ai déjà beaucoup ce sentiment de présence.
Et parfois, j'entends aussi des voix.
Ah, Jeanne d'Arc, donc. En somme, vous vous prenez pour Jeanne d'Arc. Oui, c'est marqué.
Comment vous avez deviné?
Bon, c'est parce que je suis le pape de la BD, je sais tout. C'est mon métier. Habituellement, vos confrères se prennent pour des de Gaulle.
Oui, ils sont tombés sur la tête.
Oui. Entre nous, j'ai bien peur que vous releviez touche de la...
Oui, bah surtout les autres.
Bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Ça fera 80 euros.
Combien?
Non, 90.
Combien?
90 euros.
Oui, mais et en France, ça fait combien?
On se voit la semaine prochaine.
C'est ça, allez au suivant.
Monsieur Zemmour, c'est à vous. On va procéder à un test. Qu'est-ce que vous voyez ici?
Mais laissez-moi répondre, mais enfin, c'est insupportable. Laissez-moi finir. J'aimerais bien pouvoir répondre.
Merci beaucoup, merci.
Est-ce que je peux envisager une carrière dans le théâtre?
Moi, je vous signe. J'ai une pièce de Jean Vanhamme à vous proposer.
Mais continuez à faire des BD, Jean. On adore. Alors, je rappelle qui vous? Jean Vanhamme, Christophe Simon. Merci à tous les deux d'être venus. Paris aux éditions du Lombard. Pas de mot de la fin. On enchaîne directement. Merci à vous. Ciao.